Toujours souriant, Alain Baraton.
Oui, toujours heureux de vous retrouver.
Ben, je comprends. Alain, les horticulteurs et les maraîchers ont pour ennemi commun les nématodes. C'est quoi ça?
Ce sont des vers minuscules, translucides d'à peine 1 mm. Autant dire qu'ils sont quasiment invisibles à l'œil nu. Ils sont redoutés par les professionnels, car ils pénètrent dans les racines et provoquent le dessèchement des parties aériennes des plantes. Les nématodes sont responsables à eux seuls de la perte de 5% de toutes les productions. Préoccupant, quand on sait qu'ils se délectent particulièrement des pieds de tomates, des pommes de terre et de nombreuses plantes à massif.
Ah, c'est pour ça que mes tomates ont du mal.
Peut-être.
Peut-être. Mais alors, il y a bien quelque chose pour les combattre, non?
Alors oui. Pendant longtemps, il a été employé la désinfection à la chaleur ou l'emploi de nématicides, mais les résultats sont souvent décevants, car les nématodes sont difficiles à atteindre, ils vivent dans la terre. Si les nématodes peuvent être source de dégâts, ils sont aussi utiles dans la lutte biologique. Certaines espèces appréciées en lutte intégrée sont placées de manière à pénétrer le corps des parasites et les détruire de l'intérieur. C'est cruel, mais c'est efficace.
Mais est-ce qu'on sait combien d'espèces existent ?
Pour les spécialistes qui s'intéressent aux nématodes, il en existerait plus de 40 000 espèces.
Ah oui ?
Déjà, l'idée qu'on ait été capable de distinguer 40 000 bestioles qui se ressemblent, je trouve ça extraordinaire. Mais surtout une quantité sur Terre de nématodes que vous ne soupçonnez pas. Une équipe de l'université de Zurich a étudié 6759 échantillons pour être précis. Ces prélèvements ont été collectés partout sur les continents. Les résultats sont époustouflant.
Vous êtes un peu marseillais là sur ce coup-là.
Eh ben pas du tout, à vous de vous faire une idée d'ailleurs. Les scientifiques estiment leur nombre sur Terre à 440 milliards de milliards. Les nématodes à eux seuls représentent 82% du poids de toute l'humanité.
On fait
moins la fière.
Les chercheurs russes aussi sont intéressés à eux?
Et là encore, les résultats sont incroyables. Les scientifiques russes ont examiné des carottes de glace prélevées sur les berges du lac Alazaya, un grand cours d'eau sibérien. Dans ces échantillons vieux de près de 41 000 ans, j'ai bien dit 41 000 ans, ils ont découvert plusieurs dizaines de nématodes prisonniers du froid et ont réussi à en ramener deux à la vie. Il existe donc en laboratoire deux petits nématodes bien vivants qui ne payent pas de mine et qui sont pourtant âgés de 42 000 ans. Alors, avouez que c'est quand même extraordinaire.
Là, vous me coupez la chic, Alain.
Eh ben oui. Non. Mais les nématodes sont donc partout. Et des scientifiques, il y a eu un sujet très intéressant dans le Figaro la semaine dernière et dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, disent même que leur présence sur Terre est très importante dans le cycle du carbone et qu'ils pourraient même être utilisés intelligemment dans tout ce qui a trait au réchauffement climatique.
Alain Baraton. Alain Baraton, messieurs, mesdames. Alors maintenant, on va passer aux auditeurs et aux questions des auditeurs, Alain. Alors, il y a Louis qui pose cette question. J'ai laissé pendant mes vacances une orchidée à la fenêtre. Elle a beaucoup souffert de la chaleur, ça on l'imagine. Puis-je garder l'espoir de la voir un jour refleurir?
C'est malin. Alors déjà, on ne laisse jamais une plante derrière une fenêtre, surtout quand on s'éloigne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Que faire aujourd'hui? Espérer que la plante reprenne. Couper les feuilles mortes, elles ne repartiront pas. Et surtout, ne jamais commettre l'erreur que des milliers d'auditeurs et d'auditrices commettent chaque fois qu'ils reviennent de vacances. Oh, ma fleur n'est pas au top. Alors que fait-on? On met de l'eau. Et pour que la plante redémarre plus rapidement, que mettons en plus?
De l'engrais.
Eh ben oui. Sécheresse plus engrais égale mort. Eh oui, si vous voulez tuer une plante, vous la laissez mourir de soif et ensuite vous mettez de l'engrais, résultat garanti. Donc on réarrose petit à petit, on réhydrate petit à petit, on coupe les parties mortes ou très gravement endommagées et on espère que la plante repartira.
Louis, vous savez ce qu'il vous en coûtera.
Oui.
Voilà, monsieur Baraton n'est pas content. Bon. Alors Albertine, j'ai l'impression que la fibre déposée sur le massif n'a pas permis de garder la fraîcheur. Pire, j'ai l'impression que les plantes souffrent davantage. Alors je ne sais
oui.
pas toi.
Si, c'est devenu quoi, maintenant très à la mode de mulcher. J'en parlais il n'y a pas longtemps d'ailleurs ici même à ce micro.
Vous ai pas écouté.
Le mulch, oui, je constate avec beaucoup de déception. Oui, le mulch, ce sont des fibres qui peuvent être des fibres de coco ou de tout autre végétaux qui sont déposées en guise de paillage
à la
surface d'un massif. Et on trouve ça extraordinaire parce qu'on vous dit que ça préserve la plante, ou du moins la terre, des rayons du soleil, donc limite l'évaporation de l'eau, ce qui est vrai, limite la prolifération des mauvaises herbes, c'est vrai. Mais le problème est le suivant, vous avez des périodes de chaleur et de temps en temps, heureusement, la pluie tombe, oui, mais quand l'épaisseur du mulch est trop importante, l'eau, elle mouille le mulch, mais pas la terre. Ce qui veut dire en clair que si ça empêche l'eau de sortir de terre, ça l'empêche aussi de pénétrer le sol. Donc le mulch, pourquoi pas, mais en quantité raisonnable et en épaisseur réduite.
Clovis, depuis maintenant plus d'un an, mon ficus en pot ne grandit plus et ne produit plus de feuilles. Que faire ?
Il serait peut-être bon de le rempoter, parce que le petit pépère, il a peut-être besoin de nourriture tout simplement. Il a peut-être besoin d'engrais, lui, tiens, mine de rien.
Et un ficus, on le rempote quand on veut, c'est ça ?
Alors, c'est pas quand on veut, quand on doit, parce que la plante n'aime pas trop souvent être baladée. Alors, la petite technique, je rappelle, pour quand on a... Parce que rempoter, les gens se disent, tiens, il faut un pot plus grand. Au bout d'un moment, vous avez un pot de 30 tonnes, ça crée quelques problèmes. Donc déjà, règle numéro 1, on rempote toujours dans un pot à peine plus grand que le précédent. Toujours. Une plante d'intérieur a pour objet de vous présenter de belles feuilles et de belles fleurs et pas de vous présenter des racines. Elles sont sous terre, on les voit pas. Elles sont moins importantes pour vous. Donc, que faire pour le ficus? Vous retirez le ficus de son pot. Vous arrosez la motte la veille pour éviter que la terre ne se dessèche et se fragmente. Ensuite, vous coupez en périphérie, on va dire, 2 ou 3 centimètres de terre que vous supprimez, que vous évacuez. Vous remettez la motte dans le pot. J'espère que vous me suivez. Elle est donc réduite. Il y a donc de l'espace pour mettre du bon terreau. Vous remettez du bon terreau, vous arrosez. Et la plante, un peu sotte, s'imagine qu'elle peut encore produire des racines parce qu'elle retrouve de l'espace et elle refait ainsi des racines, des tiges et des feuilles dans un même volume.
D'accord.
Mais je m'arrête de répéter.
C'est compliqué. Mais au niveau de la... Il n'y a pas de saison pour le rempotage.
Non, ça peut se faire. Pratiquement, quand on veut, la meilleure période, à mes yeux, est quand même l'entrée en automne ou la sortie au printemps.
D'accord. François, du printemps ou de l'automne, quelle est la meilleure saison pour semer une pelouse?
Quand la terre est... Alors, on va dire quand la terre est déjà réchauffée. Moi, j'ai tendance à préférer le printemps, pardonnez-moi, parce qu'au printemps, on a le temps de corriger les défauts de la pelouse, elle a le temps de bien se mettre en place. Quand vous arrosez, quand vous mettez en place un gazon à l'automne, pour peu que l'hiver soit précoce, ça peut être un peu gênant pour qu'il se développe avec harmonie. Donc, je préfère le printemps, mais il est possible de semer du gazon en été et en automne.
Et est-ce que le gazon, ça c'est la question subsidiaire, peut disparaître? Alors je sais pas, on a creusé dans la terre, machin, et à un moment donné, elle disparaît.
Comment ça disparaît?
Eh ben moi, elle n'arrive pas à repousser la pelouse de mon jardin.
Non, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer effectivement la disparition d'un gazon. L'une des causes les plus fréquentes, c'est la mise d'essence sur la pelouse. Vous avez une petite tondeuse. Oui, vous allez comprendre, vous tondez avec votre tondeuse à moteur. Vos voisins sont très heureux. Vous avez fait déborder le réservoir, l'essence va tuer le gazon.
Mais là, c'est ceux qui ont un grand jardin, une grande propriété. Moi, j'ai un tout petit truc.
Alors, quand le gazon disparaît totalement, ça veut dire qu'il y a une terre qui est généralement beaucoup trop compactée. Vous avez certainement quantité d'enfants qui jouent sur le gazon et qui tassent anormalement le sol. Le gazon a besoin de respirer. Les racines ont besoin de souffler. C'est certainement dû à un tassement des terres.
D'accord. Merci à la marathon. Vous avez un petit bouquin rapido?
Oh non, une promenade dans les parcs de la ville de Reims. Vous connaissez Reims, bien évidemment.
Bien évidemment.
Les oiseaux ont de la bilasphère. Maintenant, il y a des pianos qui vous permettent de jouer dans les parcs. L'idée, je la trouve extraordinaire. Donc, les grands parcs de Reims, maintenant, sont dotés de pianos. Les artistes sont les bienvenus.
Eh ben, allez à Reims. Merci beaucoup, Alain Baraton, et à demain.
À demain.